Bonsoir, vous êtes sur Radio Pleine Lune 93.8 MHz. Dans notre émission Cause Toujours, tu m'intéresses ce soir, le travail de nuit. Pourquoi le travail de nuit? C'est parce qu'aujourd'hui, le 7 juin, s'ouvre à Genève la conférence internationale du BIT, le Bureau international du travail, qui traitera du travail de nuit et plus particulièrement de la convention 89, convention qui interdit le travail de nuit dans l'industrie pour les femmes. À cette occasion, plus de 40 organisations syndicales populaires et chrétiennes ainsi que des partis politiques ont mis sur pied un symposium national et international contre le travail de nuit. Parmi les 11 orateurs et oratrices interviendront notamment Ruth Dreyfus, secrétaire à l'Union syndicale suisse et déléguée au Bureau international du travail. Symposium contre le travail de nuit qui aura lieu le 10 juin à Genève, à l'université de à la rue du Général Dufour. Travail de nuit, un acquis à défendre, un acquis à étendre. En effet, le travail de nuit des femmes est interdit. Il faut défendre cet acquis, il faut étendre cet acquis, c'est-à-dire que le travail de nuit soit aussi plus restrictif, plus limité pour les hommes également. Table ronde sur l'interdiction du travail de nuit, un enjeu de société. On pourra entendre le docteur Andreas Sorer qui parlera des aspects nocifs du travail de nuit sur la santé. On entendra des membres des syndicats allemands IG Metall qui parleront de certaines luttes en Allemagne. Entre autres, on entendra Gisela Kessler qui parlera de la lutte dans les arts graphiques en RFA, définir nos besoins, défendre nos intérêts. Bernard-Nicole Pasteur montrera l'importance de la nuit et de la du week-end, du temps pour vivre. On parlera aussi des rapports de solidarité entre le Nord et le Sud. Le thème de la Convention 89, qui interdit donc, convention du BIT, qui interdit le travail de nuit des femmes, sera aussi abordé par Marianne Hebel du Comité Travail et Santé et qui montrera comment ce verrou est nécessaire. Et ensuite, Ruth Dreyfus, syndicaliste et déléguée suisse à la conférence du BIT, parlera de l'Union syndicale suisse contre le travail de nuit, pourquoi et comment. Le travail de nuit, donc, à l'ordre du jour, le travail de nuit, parce que ça fait depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, que les patrons, que ce soit en Suisse, que ce soit en France ou dans d'autres pays, essayent d'augmenter cette soi-disant flexibilité du travail et de réintroduire, d'assouplir la législation autour du travail de nuit. En Suisse, le travail de nuit est interdit pour hommes et pour femmes. Il est totalement interdit pour les femmes dans l'industrie. Pour les hommes, il y a de nombreuses dérogations qui sont possibles pour des motifs économiques ou de technologie. Il y a effectivement des technologies qui ne peuvent pas être arrêtées la nuit. Alors, on fait travailler les gens. Et puis, bien sûr, il y a de nombreux secteurs qui ne sont absolument pas soumis à la loi. Et là, les hommes et les femmes travaillent la nuit. Il s'agit entre autres de l'hôpital où, vous l'avez sûrement remarqué, il y a de nombreuses femmes qui travaillent aussi la nuit. Les patrons demandent donc que soit assouplie cette législation, que les dérogations soient plus facilement accessibles et que la législation elle-même soit assouplie, entre autres pour les femmes. En effet, les femmes ne peuvent pas travailler la nuit dans l'industrie et les patrons, depuis de nombreuses années, demandent que soit abolie cette interdiction et que cette convention 89 ne soit plus reconduite. Pourquoi ? Pour des raisons bien sûr économiques. La concurrence internationale devient de plus en plus dure. Les technologies employées deviennent de plus en plus chères. Elles sont de plus en plus productives et ça arrange les patrons. Ça sert leurs intérêts de les faire marcher 24 heures sur 24. Quels sont maintenant les arguments contre le travail de nuit ? Premier argument, biologique, si on peut dire, nous sommes une espèce diurne, nous sommes faits pour vivre le jour et dormir la nuit, nos rythmes biologiques sont en activité le jour et en désactivité la nuit, et on peut donc penser que travailler la nuit n'est sûrement pas bon pour notre santé à moyen et à long terme. De plus, le travail de nuit isole socialement puisque finalement tout le reste de la société continue à vivre à des heures dites normales et nous, les travailleurs de nuit, sont toujours en contretemps à travailler quand les gens dorment et à essayer de dormir quand les gens sont dehors, s'amusent, travaillent, mangent, ont des loisirs, etc. Quant aux femmes, l'interdiction du travail de nuit des femmes en Suisse date de 1870. Ça fait donc plus d'un siècle que le travail de nuit est interdit. Et en fait, l'interdiction du travail de nuit a sûrement été à l'origine, il y a eu sûrement à l'origine des raisons plus morales que médical pour interdire ce travail de nuit. On admettait déjà assez mal que les femmes travaillent le jour, mais en tout cas la nuit, elles devaient rester chez elles et pas aller rôder la nuit dans les rues ou dans des usines. Il fallait qu'elles restent à la maison, s'occuper de leur mari et de leurs enfants. Actuellement, quels sont les arguments pour renforcer ou continuer cette interdiction du travail de nuit des femmes ? Alors, premièrement, il y a bien sûr le fait que les femmes n'arrêtent pas de travailler quand elles sortent de l'entreprise, on le sait. Le travail continue, s'il s'agit du travail ménager, et la deuxième journée de travail commence quand la femme sort de son emploi salarié, s'il s'agit du ménage, des enfants, de la maison en général. Alors, pour les femmes qui travaillent de nuit, ça veut dire que le jour, au lieu d'aller se reposer, eh bien, elles seront disponibles pour faire encore mieux ce travail ménager. Et on le sait, de nombreuses infirmières, entre autres, choisissent de faire des veilles la nuit pour pouvoir s'occuper de leurs enfants le jour. D'autres raisons sont liées alors au type de travail où se retrouvent les femmes dans l'industrie. Ce sont des travaux en général très durs, ce sont du travail à la chaîne principalement. Il y a beaucoup plus de femmes qui travaillent à la chaîne que d'hommes. C'est du travail répétitif avec une très forte charge de travail, un travail dont on le sait, dont on sait qu'il a des nombreuses conséquences sur la santé. Et mettre en plus la contrainte du temps en faisant travailler les femmes à ces postes de travail la nuit, c'est augmenter grandement les risques de conséquences pour la santé. Voilà. Voilà donc la problématique. Pour illustrer encore ce propos, nous vous faisons écouter maintenant une interview de M. Dumont, responsable des conditions de travail au BIT, Bureau international du travail à Genève, qui vient de publier une brochure sur le travail de nuit, où un grand chapitre est consacré au travail de nuit des femmes, puisque la conférence qui s'ouvre aujourd'hui à Genève aura pour thème justement l'abandon de cette convention 89 qui interdit le travail de nuit des femmes. Vous êtes sur la pleine lune, 93.8 MHz, sur Radio Zone. Écoutons donc M. Dumont sur le travail de nuit.
Vous êtes responsable d'un service de conditions de travail au Bureau international du travail qui vient de publier un rapport très documenté sur le travail de nuit. Alors la première question que j'aimerais vous poser, quelles sont les conclusions de ce rapport sur les effets du travail de nuit sur la question de la santé ?
Bien. Ce rapport fait état, disons, de diverses études qui ont été faites par des médecins du travail dans plusieurs pays. Et en général, ces études faites par des gens très sérieux aboutissent aux mêmes conclusions, à savoir que le travail de nuit comporte des risques pour la santé de ceux qui l'effectuent, des risques liés aux troubles du sommeil que ce genre de travail occasionne, des troubles liés également à la modification des habitudes alimentaires que le travail de nuit exige. Vous savez, quand vous travaillez la nuit, vous subissez une double contrainte. Tout d'abord, on vous oblige à travailler au cours d'une période où votre système nerveux central est en période de désactivation, il est au repos, ce qui exige de vous un effort additionnel pour travailler, comparativement à la même tâche effectuée durant le jour. Par ailleurs, vous devez dormir durant la journée, récupérer pendant la journée dans un monde qui autour de vous est en éveil, en pleine activité, ce qui rend plus difficile le sommeil et ce qui, disons, porte atteinte sans doute aux capacités réparatrices de ce sommeil de jour. Il n'est pas douteux que, à charge de travail égal, un travail effectué la nuit et exige beaucoup plus d'un travailleur. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue, et les études le montrent, que ce genre de travail est à l'origine de nombreux troubles intestinaux gastriques. Les ulcères sont très fréquents parmi les travailleurs de nuit. Cela est lié à différentes causes, notamment la nécessité de manger à des heures inhabituelles lorsque votre appareil digestif est lui également en période de désactivation. Par ailleurs, beaucoup de travailleurs de nuit consomment pas mal de produits pour se maintenir éveillé durant la nuit, du café. Alors, ils prennent des somnifères pour pouvoir dormir de jour. Vous voyez, tout cela, finalement, à la longue, a des répercussions sur la santé. Et ces études, ce ne sont pas des études du BIT, mais des études faites dans différents pays par des gens fort sérieux, des médecins, des ergonomes, montrent que pour un pourcentage non négligeable des travailleurs, il y a des signes d'intolérance au travail de nuit qui se manifestent relativement rapidement. Et le nombre de travailleurs, la proportion de travailleurs qui peut supporter ce genre de travail de façon permanente durant toute sa vie active, ce pourcentage est quand même relativement bas.
Pourtant, il y a environ de 7 à 15% de la population active des pays industrialisés qui travaillent de nuit ou en horaire irrégulier. Donc ce n'est pas un chiffre bas, c'est un chiffre assez haut qui, en plus, on pense qu'il est en train d'augmenter. Quelles sont en fait les raisons qui justifient le recours à un travail de nuit, sans du tout entrer dans la discussion de ce qui est technologiquement indispensable, par exemple les industries de process, de feu continu, ou de ce qui est socialement indispensable, comme les hôpitaux. Quelles sont les justifications qui finalement font choisir le recours à du travail de nuit ?
Bien, une première raison, c'est que nos sociétés sont de plus en plus exigeantes. Elles veulent, disons, avoir accès à des services qui sont ouverts très longtemps au cours d'une période de 24 heures. Ça ne se limite pas simplement aux services de police, de protection de la sécurité des biens et des personnes. Il y a également les services de santé, que vous les avez signalés, mais il y a également d'autres services, comme par exemple les services d'information, les services de loisirs. Il y a une tendance des individus à exiger que ces services soient disponibles durant très longtemps, pendant la journée et la nuit, ce qui oblige bien sûr certains travailleurs à travailler la nuit pour fournir ce genre de services. On peut demander si c'est là vraiment l'idéal de société auquel nous aspirons. Mais la raison sans doute la plus importante, c'est, disons, actuellement, ce progrès technologique considérable qui caractérise la vie professionnelle, le travail dans les entreprises. Et les entreprises recherchent de plus en plus la flexibilité en matière d'utilisation de leur main-d'œuvre. Ils veulent avoir la possibilité d'utiliser cette main-d'œuvre aussi longtemps et au moment qu'ils le désirent, parce que pour faire face à une concurrence qu'ils disent croissante sur le plan international, ils recherchent, disons, de rentabiliser au maximum des investissements de plus en plus coûteux qu'ils ont dû faire pour moderniser leur appareil de production. Alors, les employeurs s'accommodent mal aujourd'hui de règles qui limitent l'utilisation de la main-d'œuvre dans le temps. Par exemple, des règles qui interdisent le travail de nuit des femmes dans l'industrie, des règles qui interdisent de travailler le dimanche. Bref, tout ce qui fait obstacle à leur liberté d'utiliser cette main-d'œuvre est quelque chose qui est mal vu actuellement. Et ils recherchent, il y a une pression effectivement des employeurs, appuyés par certains gouvernements, de façon, disons, à se dégager de ces règles qui sont considérées par d'aucuns comme beaucoup trop gênantes, trop restrictives.
Eh bien, Venons-en justement au travail de nuit des femmes. Le travail de nuit des femmes dans l'industrie est toujours et aujourd'hui, dans la plupart des pays, interdit. Ces pays ont ratifié la convention 89 du BIT, qui a été signée, je crois, en 1948. Il va y avoir cet été, au mois de juin, une conférence internationale du travail. Est-ce que vous pensez que cette convention 89 sera reconduite ?
Nous ne voulons pas supprimer purement et simplement cette convention 89 qui interdit le travail de nuit des femmes dans l'industrie uniquement. Ce que nous voulons, disons, c'est tenant compte du débat actuel qui a lieu autour de cette question, arriver, disons, à un instrument qui corresponde mieux aux exigences de notre monde d'aujourd'hui. Tout d'abord, vous savez que dans cette organisation, nous avons également un autre principe très important qui dirige notre action, c'est le principe de l'égalité de chance et de traitement des hommes et des femmes dans la vie professionnelle. D'aucuns affirment qu'interdire le travail de nuit aux femmes est attentatoire à ce principe de l'égalité dans la mesure où cette interdiction empêcherait les femmes d'avoir accès à certains emplois ou leur empêcherait l'accès, disons, à des salaires plus élevés parce que vous savez fort bien que le travail de nuit entraîne d'habitude le paiement de primes spéciales qui s'ajoutent au salaire de base.
Excusez-moi, mais ce sont les arguments de qui ?
Ça, ce sont les arguments des gouvernements, des employeurs. Un autre argument utilisé, c'est que on nous dit, est-ce que c'est vraiment logique d'interdire le travail de nuit des femmes dans l'industrie et l'autoriser dans d'autres secteurs qui peuvent être plus dangereux que le secteur industriel, comme le travail dans les bars, les lieux de divertissement, etc. Ce n'est pas une chose facile pour nous. Notre convention 89 a été largement ratifiée, mais il y a, au cours des dernières années, pas mal de pays qui l'ont dénoncée. Une dizaine de pays. Et si nous ne faisons rien, il est fort probable qu'en 1991, date à laquelle on pourra de nouveau dénoncer cette convention 89, beaucoup de pays dénonceront cette convention, notamment tous les pays, beaucoup de pays d'Europe. Vous savez que c'est une question extrêmement controversée. Les points de vue en présence sont très distants les uns des autres. Il y en a qui voudraient l'élimination pure et simple de cette interdiction, d'autres voudraient son maintien et même d'autres voudraient son extension, que l'interdiction soit étendue aux hommes. Nous sommes, nous, du Bureau international du travail, au milieu de ce conflit. Et nous proposons une solution de compromis. Nous disons, l'interdiction actuelle, telle que fixée par la Convention 89, est très rigide. Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans des cas limites, lorsque l'intérêt national est en jeu dans des circonstances vraiment exceptionnelles. Nous pensons, nous, qu'il devrait être possible de déroger, qu'on devrait autoriser des dérogations à cette interdiction, c'est-à-dire autoriser les femmes à travailler la nuit dans l'industrie, lorsqu'un accord dans ce sens a été négocié par les partenaires sociaux, c'est-à-dire par les représentants des employeurs et par les représentants des syndicats. Étant entendu que l'on ne pourrait pas négocier de tels accords dans n'importe quel contexte, il faudrait d'abord qu'il y ait un contexte, un cadre qui était fixé au préalable par l'autorité nationale dans chaque pays qui fixerait les circonstances dans lesquelles on pourra négocier un tel accord, le niveau auquel on pourra négocier et les conditions minimales que cet accord devra respecter. Parmi ces conditions, nous pensons qu'il devrait être interdit aux femmes, que l'interdiction devrait être poursuivie, même lorsqu'il y a accord entre les partenaires sociaux, dans le cas des femmes enceintes au cours d'une période donnée avant l'accouchement et également au cours d'une période donnée après la naissance de l'enfant.
Mais est-ce que vous ne trouvez pas que cet argument sur l'égalité des femmes est un argument un peu spécieux ? On pose un peu la charrue avant les bœufs, puisque en fait, il n'y a pas d'égalité réelle entre hommes et femmes dans le monde du travail, si ce n'est au niveau des salaires, si ce n'est au niveau des conditions de travail, des possibilités de choix dans le travail, des possibilités de carrière. On sait bien que les femmes dans l'industrie sont cantonnées aux tâches de production les plus monotones, les plus répétitives, les moins bien payées, où il y a le moins de carrière possible, et on sait aussi que ce sont ces postes-là qui sont des postes à risque, pour la santé. Alors, est-ce que ces postes-là soient en plus, on y ajoute encore la contrainte horaire, est-ce que ça ne va pas les rendre encore plus durs?
Écoutez, moi je vous expose les arguments des uns et des autres. Je ne peux pas m'ériger en arbitre et apprécier le bien fondé des arguments des uns et des autres. Je préfère, disons, adopter une situation neutre. Je vous ai dit qu'il y a ceux qui pensent que cette interdiction porte atteinte au principe de l'égalité de chance et de traitement entre hommes et femmes dans la vie professionnelle. Il y en a d'autres, notamment les syndicats, qui pensent que pas du tout, cette interdiction est parfaite, en a parfaite harmonie avec le principe de l'égalité de chances et de traitement entre les sexes dans l'emploi et que son maintien est indispensable. Les syndicats font ressortir le fait que c'est la femme qui continue à supporter l'essentiel des responsabilités familiales. Même avec l'interdiction actuelle, même avec le travail de jour, concilier obligations professionnelles et responsabilités familiales, pour la femme, ce n'est pas quelque chose de facile. Et la tâche de la femme serait encore plus compliquée si il était autorisé de recourir aux femmes pour travailler la nuit. En fait, les syndicats font ressortir le fait, à juste titre, à mon sens, que finalement, ce ne serait pas une liberté qui serait donnée aux femmes de travailler la nuit. En fait, elles n'auraient pas le choix. Elles seraient obligées de travailler la nuit, puisque les entreprises qui actuellement, à forte consommatrice de main-d'œuvre féminine, qui maintenant travaillent à 2 postes par jour, passeraient à 3 postes et obligeraient les femmes à travailler dans le cadre d'un système de travail posté en semi-continu ou en continu. Vous voyez, c'est une question extrêmement délicate. En fait, c'est très important que vous le sachiez, notre action normative que nous envisageons à partir de juin prochain ne va pas se borner à réviser la Convention 89 sur l'interdiction du travail de nuit des femmes. Il y a un autre volet dans cette action normative qui, à mon sens, est extrêmement important. Il est fondamental. C'est, disons, une action normative destinée à améliorer le sort des travailleurs de nuit, qu'ils soient hommes ou femmes, et quel que soit le secteur d'activité dans lequel ils sont occupés. À partir du moment où on accepte, et je ne vois pas comment on pourrait ne pas l'accepter, que le travail de nuit est plus pénible que le travail de jour, qu'il implique pour les travailleurs qu'il effectue des risques, des inconvénients particuliers, il est nécessaire de prendre des mesures afin que ces risques, ces inconvénients soient atténués, soient compensés, et ceci, quel que soit le sexe des travailleurs, quel que soit le secteur d'activité. C'est pourquoi nous proposons à la conférence qu'elle adopte de nouvelles normes qui chercheront à humaniser le travail de nuit. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de normes de l'OIT sur le travail de nuit en général. Nos normes, on se sont limités jusqu'à présent à restreindre le recours au travail de nuit pour certaines catégories de travailleurs, les femmes, les enfants et les adolescents. Vous voyez, nous voulons aller au-delà et maintenant chercher à améliorer le sort des travailleurs de nuit.
Quelles sont par exemple les normes que vous allez proposer ?
Eh bien, en ce qui concerne les normes destinées à améliorer le sort des travailleurs de nuit, tout d'abord, nous allons proposer que les travailleurs aient le droit, avant leur affectation au travail de nuit et périodiquement par la suite, de subir un examen médical approfondi destiné à déterminer s'ils n'ont pas, disons, des contre-indications, s'ils ne présentent pas des contre-indications au travail de nuit. Nous allons également proposer dans ces normes que les travailleurs qui, pour des raisons médicales reconnues, ne sont plus capables de travailler la nuit, aient la possibilité d'être protégés et des garanties, par exemple la garantie de pouvoir être transféré à un poste en horaire normal de jour, ou également recevoir un congé de maladie normal avec une compensation financière appropriée. Ce que nous allons proposer également, bien sûr, c'est que les travailleurs de nuit continuent à recevoir une compensation financière des primes spéciales, que ces primes soient prises en compte lors de le calcul de différentes prestations qui leur sont redevables, par exemple lors du calcul des prestations de sécurité sociale, la rémunération du congé annuel. Ce que nous allons proposer, c'est cela, c'est très important, c'est que les travailleurs de nuit aient la priorité en ce qui concerne la réduction du temps de travail. Comme c'est un travail plus pénible, nous estimons que lorsque l'on parle de réduction du temps de travail, il faut d'abord penser à ces travailleurs-là qui, de façon régulière ou alternante, sont obligés de travailler la nuit. Nous pensons qu'ils méritent un traitement préférentiel sur ce plan, une semaine normale de travail plus courte, des jours de congés additionnels. Ce que nous voudrions également, c'est que ces travailleurs aient à leur disposition certains services sociaux dont ils ne disposent pas pour le moment. Par exemple, des facilités plus grandes en ce qui concerne les transports, les déplacements entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail, des systèmes meilleurs en ce qui concerne la garde des enfants. Vous savez que les crèches d'habitude sont fermées la nuit. Des adaptations des systèmes destinés à organiser les loisirs, les activités récréatives, etc. Bref, des facilités spéciales en ce qui concerne la restauration dans l'entreprise. D'habitude, la cantine est fermée la nuit dans l'entreprise. Bref, une série de mesures faisant en sorte que les travailleurs obligés d'effectuer du travail de nuit et reçoivent les compensations appropriées et qu'on s'efforce à tout le moins, disons, d'atténuer autant que faire se peut les inconvénients auxquels ils sont soumis.
Merci beaucoup.
Radio Pleine Lune sur Radio Zone 93.8 MHz. Nous écoutions une interview de M. Dumont du Bureau international du travail sur le travail de nuit des femmes. Et maintenant, de la musique avec Mary Colan, Under the Influence.
Turn not 'cause I couldn't. It's simply because I'm the laziest girl, the laziest girl in town. With their fancies, Jim and Stan, I said I'd mind their children, but I couldn't give a damn. 'Cause I'm waiting for, I'm waiting for,
waiting
for the ice cream man. Yes, I'm waiting for, I'm waiting for,
waiting
for the ice cream man. The kids out on the landing look at me with empty eyes. Say, what are you doing hanging round while the sun is splitting the stones? They turn their heads and talk away.